Alors, oui, il y avait une dernière image, donc, parce qu'en fait, j'ai fait ce voyage. Bon, on fait ça, les journalistes diraient « embedded ». On se met dans la peau d'eux. Pas forcément « with Madonna », mais avec quelque chose d'autre, qui est la fiction qu'on est en train d'élaborer. Et donc, j'ai été à Mostar, et j'y allais pour une raison qui n'était pas le Starry Most. Bon, je voulais voir le Starry Most reconstruit, mais ce n'était pas ça. Parce que dans la bascule du XXe siècle au XXIe siècle, il y a le Starry Most, mais il y a aussi une sculpture emblématique qui est dans le livre, parce que en fait, le vieil homme et l'enfant vont vers cette statue comme si c'était un peu un sphinx, si vous voulez. Un truc qu'il faut comprendre. Mais on ne sait pas vraiment comment c'est arrivé, mais c'est arrivé, quoi. Et c'est vraiment là, il va falloir faire avec. Et c'est une sorte de monument assez dans le livre qui est décrit de façon très mystérieuse. Mais c'est là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais qui dit bien pour moi cette bascule du Starry Most au XXIe siècle et à cette sorte d'autre histoire qui a commencé de sérieusement s'écrire et fortement s'écrire. Et c'est un monument qui lui-même a une généalogie puisque on a demandé. Alors ça, je le raconte un peu dans le livre, mais on a demandé aux habitants de Mostar de se mettre d'accord pour construire un édifice, un monument qui représente la paix retrouvée après la guerre. Et donc, ils ont invité plein de gosses de différentes écoles et des différents quartiers et des différentes communautés. Et il n'y avait pas que des gosses, il y avait des adultes, mais accessoirement, il y avait en fait ceux qui ont beaucoup participé, parce que ça faisait partie du projet de réconciliation, c'était des gamins qui avaient été envoyés dans des écoles de karaté, où ils apprenaient le karaté. Et donc, à l'issue du vote, ils ont, comme on dit, dépouillé les bulletins, et c'est ce qui nous a valu donc d'avoir cette sculpture en signe de la réconciliation des Balkans, si vous voulez. Donc, c'est le bronze de Bruce Lee qui incarne en quelque sorte la réconciliation. Il y en avait d'autres, hein, des figures assez, assez poppy, mais celle-ci a. Et alors, justement, j'ai mis une autre image parce que. Quand je suis arrivé, c'est là où le mystère s'épaississait, vous voyez que le Starry Most disparaît, réapparaît, Bruce Lee lui apparaît et disparaît. Donc, quand je suis arrivé, il était dans cet état-là, et j'ai commencé à me renseigner, à enquêter pour savoir ce que disaient les gens autour et où était la sculpture de Bruce Lee. Et parmi les choses, les récits que j'ai recueillis, l'un c'était un truc assez intéressant pour l'état de l'Europe, ce type de vendeur des journaux de l'autre rive qui me disait « Ce sont des drogués, ils ont volé la nuit, ils ont fondu le bronze, ils ont vendu le bronze sur un marché parallèle pour s'acheter des doses. » Donc ça, c'était un récit pas très joyeux. Et un autre qui était, pour un avis, plus crédible, qui est que la sculpture était vandalisée, ça on le voit, et donc elle a été enlevée et rapatriée à Zagreb, puisque c'était un artiste croate. Donc ça, c'est cette sculpture qui est un peu traitée comme une forme d'énigme, et d'un pont d'ailleurs très très difficile à construire, entre la vieille culture de l'Europe, qui est vraiment, c'est vrai, assez mélancolique, poussiéreuse et patrimoniale, et surtout, je dirais là, ce que l'on voit, dangereuse, puisqu'elle sert aujourd'hui à toutes les formes de mobilisation nationaliste ou rétrograde, et cette forme culture totalement déterritorialisée, qui n'a absolument rien à voir avec le lieu, totalement, disons, d'une certaine façon nomade, et qui n'est absolument pas accepté, mais qui est porteuse, pour le coup, d'un symbole très fort pour l'enfant dont je vous parle. Alors bon, Bruce Lee, je pourrais rentrer dans ce que ça signifie. Bruce Lee, c'est pas seulement une blague. C'est un truc très sérieux, Bruce Lee. Mais sur cette, notamment cette sorte de vitalité, de savoir, de l'équilibre et de savoir du centre et de tout ce qu'il a. Voilà. Bon, moi, j'ai plus le corps vraiment pour faire ce qu'il faisait. Hélas, mais et je crois que je l'ai jamais vraiment eu d'ailleurs. Mais bon, c'est pas rien. Voilà ce que je veux dire. Mais ça, on pourrait revenir. Enfin, quel monument est-ce ? Ça, c'était ma question. Il y en a d'autres, hein, des monuments comme ça en Europe aujourd'hui. On m'en avait envoyé après, parce que les quelques personnes qui ont lu le livre m'avaient écrit pour moi. Alors, on passe au livre 4, et, qui s'appelle « L'inquiétude d'être au monde ». Qui est d'une autre facture. C'est un livre comme un chant, c'est comme un long poème, mais toujours quand même sur l'état de l'Europe. Bon, qui, pour ceux qui l'ont lu, a le mérite de ramener aussi toute l'histoire du XXe siècle en un seul chant, depuis la guerre de 14, etc. Donc c'est un livre qui va très vite, qui cavale, et qui cherche à comprendre ce qui s'est passé, notamment parce que l'acte déclencheur, disons, de l'écriture, au départ, c'était pour un texte qui devait être dit à l'oral. Le point de départ est lié à cette image. Donc j'ai commencé par celle-là, parce qu'elle est la plus énigmatique. D'abord parce que en la retrouvant, je me suis rendu compte que je pensais que cette œuvre, parce que c'est clairement une œuvre, qu'elle soit architecturale, paysagère ou artistique, il y a un bout d'île qui a été coupé et c'est pas la nature qui l'a fait, quoi. C'est trop droit. Et donc en fait, en la retrouvant, c'était ce matin, pour envoyer les images à Guillaume, merci d'ailleurs de les avoir mis sur l'ordinateur. En fait, elle n'existe pas. Ce que vous voyez, c'est une simulation. Elle n'a pas été réalisée. Alors qu'est-ce qu'elle célèbre, cette chose-là? Moi, chez moi, il y a toujours aussi cette question de la monumentalité dans le être et le boulot. Là, il y a le monument du Holocaust Denkmal à Berlin, ce qu'on fait un peu au paysage, ce qu'on fait avec les monuments, ce que les monuments racontent. Bon, bref. Ça, c'est une île, on la voit autrement là, qui s'appelle l'île d'Utøya, qui est donc située en Norvège, à peu près une heure de route d'Oslo. À partir de cette île, il y a eu aussi, moi j'ai écrit une pièce de théâtre, et elle a été le théâtre en 2011 de quelque chose dont vous vous souvenez peut-être, qui est d'un massacre perpétré par un certain Anders Behring Breivik, qui était vraiment le premier acte d'hyperviolence de ce que je vais appeler l'ère de la Reconquista chrétienne dans laquelle nous sommes entrés. En tout cas dans les propagandes du mouvementisme d'extrême droite européen. Mais qui va en fait très largement imprégner la politique institutionnelle jusqu'à même le leader du PPE qui vient de la CDU en Allemagne et qui se revendique de cette tradition-là et qui affirme haut et fort les racines chrétiennes de l'Europe. Donc je vous rappelle, j'ai pas mis des images de l'attentat parce que. Mais en tout cas, sur cette île, 69 enfants, et je dis ce sont des enfants parce que vraiment ce sont des enfants, ils ont entre 14 et. Le plus vieux, c'était les moniteurs qui étaient là, ils avaient 30, 31. C'est vraiment jeune, jeune, jeune. Et 69 là, et puis d'autres à Oslo. Parce que la technique d'Anders Behring Breivik en 2011, c'est je pose une bombe à Oslo, ça explose, et pendant que tout le monde est en panique à Oslo, je prends une voiture, je roule jusqu'à Utøya. Je sais que là, sur cette île, donc c'est pour ça on les voit ici, il y a un campement du parti enfin des jeunes du parti social-écologiste norvégien, et il y a un bac. Là, on ne le voit pas. D'ailleurs, le ponton est là. Donc, ça doit être là. Un bac qui vous conduit jusqu'à Lille. Et une fois qu'on est ici, avec muni d'un arsenal assez important, il n'y a pas moyen pour ceux qui sont là d'échapper à Lille. L'eau est très froide. Et donc, pendant plus d'une heure, avant qu'ils n'interviennent, avant que les services n'interviennent, ils tirent à vue et ils tuent donc 69 enfants. Au nom, il le dira plus tard au moment du procès, de ce que j'appelle cette reconquista. La reconquista, pour moi, ce n'est pas un acte très sympathique, puisque c'est là où mes ancêtres, en tout cas du côté de la branche juive, ont dû quitter l'Espagne. Et c'est quelque chose qui est assez bien documenté, puisque c'était le moment où on brûlait des juifs vivants, on a viré les morts M-A-U-R-S, c'est-à-dire au fond les Arabes de la péninsule espagnole. On a nettoyé l'Espagne. Voilà. Et avec pas mal de victimes. Et donc, il se revendique de cette idéologie-là. Moi, j'ai lu un peu son manifeste. Et il a tué ces gens, a-t-il déclaré, pour faire la publicité de son manifeste. Parce qu'il a estimé que sinon, il ne serait pas lu. Son manifeste s'appelle « Déclaration d'indépendance européenne 2083 ».